Chapitre 29. Chevauchant sous des bannières ornées de la flamme de Kourgan, 1000 soldats approchaient de Rogang. En altitude, quand le terrain devint plus déchiqueté, le général Outros reconnut les pics noirs couronnés de neige. Avec une certaine ivresse, il inspira l'air vivifiant. Un vrai changement après la poussière de la route, l'odeur des chevaux et la puanteur de la sueur.
Arriverons-nous aujourd'hui, général chéri ?
Demanda Rouva, qui cheminait comme toujours avec Outros. Le général pointa le menton, imitant un officier qui vient raconter ses exploits à son chef.
« Oui, c'est pour bientôt. Nous ne sommes plus loin. »
À l'aube, pendant que les soldats démontaient le camp et se préparaient à partir, Outros avait longuement poli son demi-masque d'or. Pensif, il avait contemplé la représentation stylisée de ses traits. Au palais, quelqu'un se rappelait-il encore son visage après tant de siècles? L'histoire enregistrait les grands événements et leurs conséquences, mais qu'importait l'apparence d'un homme ou d'un autre, quelqu'un connaîtrait-il encore son nom?
« Les légendes ne meurent jamais, » dit Rouva. « L'histoire se souvient de toi, c'est ce qu'a dit Nathan. »
Outros sonda la route qui serpentait entre les montagnes.
« Nous verrons bien sur place. Les yeux dans ceux de l'empereur actuel, je déciderai s'il est digne de ma loyauté. »
Le général chargea des éclaireurs d'aller prévenir la cité de son arrivée. Pour cette mission, il choisit 2 soldats originaires de Rogang, des fidèles qui avaient tout quitté pour le suivre. Les vétérans bombèrent le torse.
« Nous vous rapporterons des nouvelles, général, » dit le soldat au nez démesurément gros. « Et nous ferons en sorte qu'un triomphe salue ton retour. »«
On retourne à la maison, »
lança l'autre éclaireur avec l'enthousiasme d'un gamin. De fait, les 2 lascars étaient partis tout joyeux. Outros continua à chevaucher en silence. Les jumelles ouvraient de grands yeux, avides de découvrir la grandeur et les merveilles qu'Outros leur avait toujours vantées. Le général, lui, était déçu et indigné par l'état lamentable de la voie impériale. Si près de la capitale, on aurait dû voir des caravanes, des fermiers avec leurs chariots, des voyageurs et des patrouilles de surveillance. Avec une population d'un million d'âmes, Rogang ne pouvait pas être coupé du monde à ce point. La forêt, par ailleurs, était bien trop dense. Il aurait dû y avoir des coupes claires à cause des besoins en bois de charpente et de chauffage. Et sur les versants rocheux, on aurait dû voir des carrières. Où étaient les champs, les pâturages, les vergers et les gens? Sur son chemin, la colonne rencontrait uniquement les ruines d'anciennes demeures ou de fermes. Consciente de l'humeur morose du général, les jumelles ne le lâchaient pas des yeux, prêtes à se dévouer pour lui. Dans les rangs, l'heure était un mélange d'impatience, de joie et d'inquiétude. À midi, les éclaireurs revinrent. Avant qu'ils fassent leur rapport, Outros lut dans le regard que les nouvelles étaient mauvaises. Sur les joues, le type au gros nez arborait des sillons de larmes.
« Nous avons trouvé Rogang, général. La ville est déserte, »
lança l'autre homme.
« Plus de population, des rues vides. » « Une mise à sac ?»
demanda Outros, troublé mais résolu à ne pas le montrer.
« Rogang a été occupé ? Impossible à dire !»
répondit Gronet qui semblait avoir perdu sa joie de vivre.
« Les bâtiments n'ont pas brûlé, ils sont abandonnés. Toutes les issues murées, ils font penser à des fantômes. Il faut que je voie ça !»
maugréa Outros en talonnant sa monture. Les 2 éclaireurs firent demi-tour pour lui montrer le chemin.
« C'est à moins d'une heure !»
Outros serra fermement les rênes et lança son étalon au galop. Ava et Rouva le suivirent, vite imités par le reste de la colonne, avec enthousiasme, puisque les hommes ignoraient toujours la vérité. À la lisière de la ville, Outros se sentit soudain oppressé. Dans l'air, le silence planait comme une pestilence. Au soleil, les tours et les autres grands bâtiments ressemblaient à des eaux blanchies au milieu d'un désert. Le silence et la mort. Les mains tremblantes, Outros guida son étalon entre les 2 piliers de pierre, vestiges de portes autrefois majestueuses. Les rues qui auraient dû témoigner de la grandeur de l'Empire se révélèrent envahies de mauvaises herbes, leurs dalles fissurées. Partout où ils avaient trouvé une faille, des arbres tordus les éventraient. Outros s'étant immobilisé devant les portes en ruine, la colonne l'imita. Très inquiète, Ava et Rouva se taisaient pour une fois.
volatilisé,
soupira Outros.
Mon empire a disparu. Qui dirige ce qu'il en reste ?
Un empereur de paille, sûrement,
maugréa Rouva.
Général chéri, du passé il faut faire table rase,
conseilla Ava.
C'est toujours Orogang, tu en feras ta capitale et tu restaureras l'empire.
Oui, ton empire,
renchérit Rouva. Outros se ressaisit. Pas question que ses hommes le voient abattu et découragé. Bombant le torse comme tout conquérant qui se respecte, il franchit le portail dévasté sans broncher. Inquiet mais pas désespéré, les soldats le suivirent. Outros se souvint du palais, de l'observatoire, des immenses tours de surveillance. Au passage, il reconnut le palais des ministres avec son alignement de colonnes cannelées et sa myriade d'entrées toutes barricadées à présent. Quant aux fenêtres aux vitraux multicolores, elles étaient uniformément murées, en effet.
« Quelqu'un a transformé ma ville en tombeau !»
lâcha Outros sinistre.
Il s'attendait à des rues grouillantes de monde, à des boutiques, des échoppes, des bureaux de prêteurs sur gage et des temples pris d'assaut. À la place, il découvrait un silence de mort et des ombres, même en plein soleil. Alors que l'armée s'enfonçait dans la ville, d'autres éclaireurs revinrent avec d'excellentes nouvelles.
« Nous avons trouvé des entrepôts, général. Des sacs de grains, de pleins tonneaux de pommes ou de patates et même des barriques de vin et de bière. Ces vivres tombent à pic. »«
Réquisitionnez tout !»
ordonna Outros, satisfait.
Grâce au sort des jumelles, les soldats ne sentaient plus la faim qui leur déchirait les entrailles. À présent, ils allaient pouvoir s'offrir un festin bien mérité.
Dans les rues, le martèlement des sabots se répercutait à l'infini le long des façades. Ce bruit, hélas, ne remplaçait pas les vivats d'une foule en liesse. Arrivé sur l'esplanade centrale, Outros tira sur ses rênes. Lentement, il approcha d'une statue géante renversée. Si les pieds du personnage restaient fixés au sol, ses bras étaient cassés et il gisait en pièces sur le sol. Étudiant la tête, Outros reconnut l'arrogance d'un certain empereur, sans parler de son croc de fer. Après avoir destitué Kourgan, le peuple en colère s'était à juste titre acharné sur sa statue.
« Général !»
cria un éclaireur à l'autre bout de l'esplanade.
« Vous devriez venir voir ça !»
Les magiciennes descendirent de cheval et flanquèrent leurs protégés prêtes au combat. Quand elles invoquèrent leurs dons pour mieux le défendre, Outros sentit vibrer l'air. La capitale déserte angoissait tout le monde, c'était presque palpable. Au pas, Outros gagna l'endroit où se dressait une autre statue. Plus grande que celle de Kourgan, intacte et parfaitement bien entretenue. Au pied du socle, des fleurs fraîches tenaient lieu d'offrande. La barbe, la mâchoire carrée. Avant de porter son demi-masque, Outros ressemblait exactement à ça. Et pour cause, puisque c'était lui, le nom gravé sur le socle l'attestait. Les soldats continuaient d'arriver, de solides conquérants pour une ville morte. Dans les rangs, des questions fusaient. Incapable d'y répondre, Outros laissa à ses braves le soin de tirer leurs propres conclusions. Mais le poids du mystère pesait sur les épaules de tous. La statue au moins prouvait que le général n'avait pas été oublié. Au fil des siècles, sa légende survivait. Les fleurs fraîches, elles, indiquaient qu'Orogang n'était pas aussi déserte qu'on pouvait le croire. Au contraire, l'air était lourd de menaces. Dans les ombres, des yeux épiaient les nouveaux venus et quelque chose se préparait. Avec leur instinct de combattant, les soldats le sentaient et eux aussi étaient prêts à ferrailler. Ava et Rouva semblaient également mal à l'aise. Un orage allait éclater.
Le général Outros était de retour. Cyrus en fut certain dès qu'il vit sur son cheval noir le militaire qui ressemblait trait pour trait à la statue géante. Nietzsche avait bien dit qu'Outros était toujours vivant, même si ses partisans et lui priaient depuis toujours pour que ce soit vrai. Cyrus espérait en réalité trouver un digne successeur à son idole, pas l'avoir en chair et en os. Pourtant, c'était ce qu'annonçaient les prophéties. Et elles ne mentaient pas. Aujourd'hui, le plus grand héros de tous les temps, escorté par un millier d'hommes, était revenu à Orogang. Le général portait un casque impressionnant, orné des cornes d'une bête puissante. Un masque d'or cachait une moitié de son visage, lui donnant l'air moins humain, certes, mais beaucoup plus terrifiant. Deux femmes au crâne rasé le flanquaient.
sans doute les magiciennes qui, selon Nietzsche, le suivaient toujours comme son ombre. Retournés dans leur refuge, ceux qui se cachent étaient épuisés après avoir aidé Nietzsche à neutraliser l'Isis la nuit précédente. Beaucoup étaient faibles à cause du sang perdu, mais presque tous avaient survécu. Dans sa chambre au palais, la magicienne reprenait des forces en dormant. Conscient qu'elle avait risqué sa vie pour aider les siens, Cyrus était enclin à pardonner à Nietzsche. Contre toute attente, elle avait réussi à emprisonner les Is, libérant ainsi leurs victimes. Hélas, elle avait aussi affirmé qu'Othros était un tyran, indigne de confiance, désireux de conquérir l'ancien monde. Cyrus n'y croyait pas un instant. Elle mentait, saccageant tout ce qui était précieux pour lui. Et voilà qu'Othros revenait. Cyrus regarda de nouveau par la fenêtre ouverte, une fenêtre pas barricadée en plein jour. Les soldats venaient d'investir l'esplanade en rang sous leur bannière ornée de la flamme de l'Empire. Un si noble empire jadis, mais tout allait recommencer. Une grande nuit suivie d'un grand jour, décidément.
« Vite !»
lança Cyrus à ses partisans.
« Prenez vos épées et équipez-vous. Montrons au général Othros que nous ne l'avons pas oublié. Soyons dignes de lui, bon sang !»
100 fidèles de Cyrus s'emparèrent d'armes sur les râteliers, puis se coiffèrent d'un casque, revêtirent un plastron et le recouvrirent d'un tabard, tout ce qu'il fallait pour faire bonne impression sur le général. À force de vivre dans le noir, ils étaient blafards et souvent couverts de bleu à cause de l'attaque des Is. En d'autres termes, ils étaient à faire peur. Cyrus en avait conscience, mais plus question de se cacher. Othros à Orogang, sa vie, Cyrus ne l'avait vécue que pour ce jour.
« Notre général est là, enfin » lança-t-il. « Sortons l'accueillir !»
Levant son épée, il se dirigea vers les portes. Une fois dehors, ivre de joie et de soleil, les admirateurs d'Othros rugirent de triomphe. La porte du palais grinça et des silhouettes apparurent. Le teint blafard, de gris vêtu, tous ces hommes brandissaient des épées étincelantes.
« C'est Othros !»
cria l'un d'eux. Il chargea et ses compagnons l'imitèrent.
« Général Othros !»
beuglèrent-ils à l'unisson. Dès qu'ils furent en plein soleil, ils s'immobilisèrent, vacillèrent sur leurs jambes et se protégèrent les yeux. À l'évidence, trop de lumière les éblouissait. Pourtant, ils se remirent en mouvement, suivant leur chef qui fonçait droit sur Othros. Ava et Ruva n'attendirent aucun ordre pour agir. Certaines qu'on en voulait à la vie du général, elles déchaînèrent des flammes magiques qui carbonisèrent les assaillants en un clin d'œil. D'abord le chef, puis la première rangée, et enfin toutes les autres. Contre des sauvages assoiffés de sang, ne lésinez pas sur les moyens.
« Nous te protégerons toujours, général chéri, » ronronna Ava, très fière de son œuvre. « Toujours, »
lui fit Ekoruva tout aussi satisfaite. Othros étudia les cadavres fumants, le front plissé.
J'aurais aimé savoir qui ils étaient. Pourquoi m'ont-ils attaqué?
Dans l'immense palais et les autres bâtiments, le général capta des mouvements puis des bruits lorsque des dizaines de portes s'ouvrirent. D'autres ennemis apparurent, un grognement de rage collectif montant de leur gorge.